Africa. Le journal des auditeurs avec Stéphanie Hartmann sur Africa Radio.
Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle édition du JDA, l'actualité vue par les auditeurs sur Africa Radio. Aujourd'hui, dans le journal des auditeurs, nous attendons vos réactions, questions et commentaires au Forum Japon-Afrique à l'issue de la 7e TICAD. C'est la conférence de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Le Japon a plaidé pour une coopération de qualité à l'inverse de ses autres concurrents. Référence, sans la nommer, bien sûr, à la Chine. Alors qu'en pensez-vous? Que faut-il attendre de ce genre de sommet? La coopération japonaise est-elle plus vertueuse que les autres? Nous en parlerons dans quelques instants avec Ralin Yang. Il est spécialiste des relations sino-africaines. Pour participer à l'émission, posez vos questions, nous faire part de vos commentaires. Le numéro, c'est le 33 1 55 07 58 00. 33 1 55 07 58 00. Rendez-vous également sur nos réseaux sociaux, la page Facebook, facebook.com/journaldesauditeurs ou Twitter. @JDA. Mais avant cela, place sans plus tarder à vos messages et aux répondeurs d'Africa Radio.
Africa. Vous êtes sur le répondeur d'Africa Radio. Après le bip, c'est à vous.
Oui, bonjour aux auditeurs. En fait, j'appelais pour rendre un dernier hommage à notre artiste Ouin Didier, dit DJ Arafat, le champion du coupé décalé. En fait, je voulais lui rendre un hommage dans le sens où c'était quelqu'un qui était très excellent dans ce qu'il faisait. Et il y avait aussi de l'excès aussi. Mais malheureusement, il nous a quittés très jeunes dans la fleur de l'âge. Et je lui souhaite que son corps repose en paix et que la terre lui soit légère et que tout ce qu'il a accompli sur terre resteront dans nos cœurs. Et nous allons garder cet héritage précieusement et le transmettre aussi à nos descendants. Donc, Ouin Didier, repose en paix, tu es un champion, tu resteras un champion, à cause de toi, je suis devenu chinois. Merci. Et puis, je voulais aussi ajouter que je l'ai croisé dans ma carrière professionnelle. J'ai passé 30 minutes avec lui, c'est quelqu'un de formidable. Merci.
Oui, bonjour, amis auditeurs. Je voudrais un peu intervenir sur cette histoire de Ange Didier. Ah, la mort de cet enfant-là nous a tellement bouleversés. Mais ce qui suit derrière maintenant, c'est n'importe quoi. Hier, j'ai suivi une femme sur JDA qui disait que c'est Maïliba qui a incité les enfants à se comporter comme ça. Mais elle oublie que ces enfants-là n'ont pas eu le temps de faire leur deuil. DJ Arafat s'est occupé de ces enfants-là depuis très longtemps. Parmi ces enfants-là, il y a des orphelins. Il y a des enfants même qui n'ont jamais connu l'amour paternel. Et il s'est occupé de ces enfants-là. Il est dans la rue avec ces enfants-là. Il est connecté aux enfants. On les amène au stade. On leur dit, venez soutenir votre président. Les enfants étaient là depuis la veille, c'est-à-dire le vendredi. Ils n'ont pas mangé, ils n'ont pas bu. Ils n'ont pas aussi vu leur président. Arrivé au cimetière, on leur a dit que c'est privé. Mais quand c'est privé, là, on n'appelle pas les enfants d'autrui. Et maintenant, on leur fait la chasse à l'homme. Mais à qui la faute? C'est le gouvernement. Ce sont ces mêmes enfants-là hein, qu'on appelait microbes qui agressent à n'importe quel moment. Et puis, il dit qu'on n'a qu'à les appeler les enfants en conflit avec le gouvernement. Là. Ce sont ces enfants-là. Donc, tout ce qui est arrivé aujourd'hui, là, c'est de sa faute. Il n'a qu'à nous dire où il a mis Tiki Arafat. Et je vois des gens qui sont en train de politiser ça pour dire que c'est les gens qui sont en France ici, qui n'ont rien à faire, qui sont là pour les aides. Mais les aides, là, nous, on cotise. Hein. On cotise. On n'est pas en France ici pour rien. Donc, s'ils ont envie d'intervenir, qu'ils interviennent parce que ça nous fait mal. Mais il ne faut pas qu'ils débordent. Merci.
Oui, bonjour, amis auditeurs. C'est Nouveau de Bain. Alors, je me permets ce matin d'appeler sur notre radio à nous tous pour dénoncer quelque chose, pour faire un cri de gueule. Si. J'ai, comme ça, fait Facebook aujourd'hui, j'ai vu une intervention de M. Tamsi, conseiller, soi-disant, du président Sorokin. Oui, M. Tamsi, nous savons votre amour peut-être pour la Côte d'Ivoire, nous savons votre amour pour votre leader, Sorokin. Mais nous aussi, nous savons qu'en Côte d'Ivoire, outre quelques malentendus, nous avons aussi des affinités. Ça, je vous le dis. Vous, dans vos interventions que j'ai écoutées ce matin, dans votre intervention, vous avez dit traiter le ministre Ahmed Bakayoko, ministre d'État de Satan. Oui, mais la question que je vous pose, monsieur, est-ce pour faire la politique qu'on a besoin d'insulter quelqu'un? Non, ce n'est pas une obligation.
Africa. Prenez la parole dans le JDA sur Africa Radio.
Merci à tous pour vos messages aujourd'hui dans le journal des auditeurs. Bilan et perspective de la 7e conférence de Tokyo sur le développement de l'Afrique, la TICAD du 28 au 30 août. L'Afrique et le Japon avaient rendez-vous pour étudier les voies et moyens de donner un nouveau souffle à leur coopération. Alors, quel bilan peut-on faire de cette coopération? Est-elle plus vertueuse que celle avec la Chine ou avec la France? Pour en parler, nous sommes en ligne depuis Dakar, je crois, avec Rally Nyang, un spécialiste des relations sino-africaines. Docteur Rally Nyang, bonjour.
Bonjour, Stéphanie.
Merci hein, beaucoup d'être avec nous. Alors, pour la 7e fois, une 50aine de pays africains, le Japon, sous l'égide de l'ONU et de la Banque mondiale, se sont réunis pour parler du thème, je cite, « faire progresser le développement de l'Afrique à travers les hommes, la technologie et l'innovation ». Première question, docteur Rally Nyang, TICAD, Chine-Afrique, Afrique-France, à quoi sert ce type de sommet et qu'est-ce qu'en retirent les pays africains?
C'est très bien, en fait, de mentionner qu'à chaque fois, c'est un pays et tout un continent qui se retrouve pour discuter des questions de développement. Vous avez souligné qu'après la France-Afrique, la Chine-Afrique, l'Inde-Afrique, aujourd'hui, c'est le Japon et l'Afrique qui se sont rencontrés pour discuter, en fait, des destinées du continent africain. Donc, ce qui veut dire que l'Afrique, aujourd'hui, est incontournable dans l'échiquier politique international et qu'on ne pourrait pas faire aujourd'hui quelque chose dans le monde sans en fait y associer le continent africain. Maintenant, comme on le sait tous, le TICAD, c'est même plus ancien que la FOCAC.
Alors, docteur Rally Nyang, on a un petit problème de réseau. Est-ce que vous pouvez juste vous déplacer un petit peu? On a un gros problème de réseau. Ça grésille.
C'est bon.
Alors, on va plutôt essayer de vous rappeler, parce qu'on a une espèce de bourdonnement dans la ligne. Peut-être que Sonia, qui est au standard, va essayer de vous rappeler. Avant cela, on va écouter Christian du côté du Tchad. Christian, bonjour. Ah non, pardon, c'est de ma faute cette fois-ci. Christian, bonjour.
Ouais, bonjour.
Bonjour Christian, bienvenue dans le JDR. Alors, bon, avant d'être interrompu, hein, le docteur Rally Nyang a souligné hein, le fait que, voilà, on a souvent un pays, le Japon, la Turquie, la France, la Chine, l'Inde, face à tout un continent. Qu'en pensez-vous?
Oui, l'Afrique doit saisir l'opportunité pour acquérir un accord qui pourra l'aider à décoller. Le Japon pourra mieux aussi aider l'Afrique à se développer dans différents domaines, comme la Chine s'est imposée maintenant en Afrique. Il faudrait que l'Afrique saisisse cette occasion pour permettre le développement de l'Afrique.
Pour vous, c'est une opportunité d'avoir des investissements, c'est ça, de l'argent?
Oui, c'est vraiment l'opportunité pour que l'Afrique puisse saisir.
Quel secteur souhaiteriez-vous, Christian, dans quel secteur souhaiteriez-vous que le Japon s'investisse?
Surtout dans le domaine de l'agriculture et de la santé.
Merci Christian. Restez à l'écoute, on a retrouvé le docteur Rally Nyang. J'espère que la ligne est meilleure. Docteur Rally Nyang?
Bonjour Stéphanie.
Oui, voilà, on vous entend plus, excusez-nous, on avait un petit bourdonnement. Donc vous disiez, hein, vous soulignez déjà le fait hein, que c'est souvent un pays face à tout un continent. L'autre partie de la question, c'était qu'est-ce que les pays africains peuvent retirer de ce type de sommet? De quoi on discute dans ce type de sommet?
Oui, ce qui est clair dans ce type de sommet, c'est que, à mon avis, il n'y a pas, en fait, une sorte de préalable par rapport, en fait, à l'organisation de ce type de sommet. C'est-à-dire que les deux parties, à mon avis, devraient se retrouver pour discuter, en fait, des grandes questions qui doivent aboutir, en fait, à ce sommet-là. Mais toujours est-il que l'agenda est disponible seulement au moment où il y a, en fait, le sommet est déjà installé. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore mis au courant de ce qui doit être discuté. Quelles sont les priorités du continent africain par rapport à des secteurs d'investissement qui doivent être pris en charge par les différentes parties? Ça, en fait, très souvent, on n'a pas en fait ces éléments de réponse-là. Ce qu'on a, c'est le grand balai des chefs d'État, des photos qui sont prises de part et d'autre, et après des déclarations qui sont faites à l'issue de ces sommets-là. Donc quelque part, je pense qu'il faut, à mon avis, des pré-sommets qui essaient un peu d'organiser ce sommet et de permettre aux différentes parties de pouvoir donner, décliner des orientations par rapport aux axes d'investissement qui pourraient être pris en charge par l'autre partie, soit par la Chine, soit par le Japon ou soit par l'Inde. Donc quelque part, en fait, si on regarde bien, on analyse bien les différents sommets qui se tiennent à travers le monde et qui mettent en relation soit le continent africain et ces différents pays-là, il n'y a pas un travail de fond qui se fait en amont, qui permet en fait aux parties africaines de décliner leur agenda propre qui pourrait être pris en charge durant en fait le sommet et qui va faire l'objet de déclarations.
Alors, lors de ce...
à mon avis, c'est un grand problème.
Alors, justement, quand vous parlez de ça, docteur Alignon, ça me faisait penser à toutes les tables rondes que beaucoup de pays ont organisées, notamment le Sénégal, hein, avec le plan Sénégal émergent. Quand vous dites, finalement, il faudrait des pré-sommets pour qu'on sache mieux dans quel secteur les pays partenaires vont investir, on peut imaginer que cela se déroule comme ces tables rondes où, finalement, le pays propose plusieurs chantiers d'investissement.
Oui, parce que ce qu'on a noté, par exemple, si on analyse bien, en fait, le TICAD, en quelque sorte, si vous lisez bien, en fait, le discours de Abe, ça revient, en fait, c'est-à-dire ce qu'il avait prononcé lors du dernier TICAD, en indexant un peu la qualité des travaux de la République populaire de Chine sur le continent africain. C'est ce qu'on retrouve en fait dans les propos de APC. C'est comme s'il n'y a pas en fait une nouveauté qui est proposée par le Japon sur le continent africain par rapport en fait à la présence chinoise. C'est comme qui dirait que l'étiquette, c'est en quelque sorte, c'est quelque chose qui est né bien avant le Forum Chine-Afrique.
D'accord.
Mais qui a pris du retard, qui a pris énormément de retard, qui est organisé au tout début entre les d'une période de 5 ans. Après, on est revenu sur une période de 3 ans, peut-être pour se rapprocher un peu du Forum Chine-Afrique. Mais si on regarde bien sur le continent, il y a une discrétion des hommes d'affaires japonais qui, à mon avis, peut-être ne sont pas très intéressés par le continent africain. De l'autre côté aussi, sur le plan des politiques étrangères, il est clair que le Japon, véritablement, ne semble pas trop s'intéresser au continent africain, parce que je pense qu'il n'a pas besoin peut-être d'alliés politiques sur le continent. Ce qui l'intéresse déjà, c'est que, étant donné que le Japon dispose d'un grand allié comme les États-Unis d'Amérique, peut-être qu'ils se disent qu'ils n'ont pas besoin d'une couverture politique, voire diplomatique des pays africains. Donc, ce qui fait qu'ils ont laissé le terrain aux Chinois, et les Chinois se sont bien installés sur le continent africain.
Notamment dans le domaine militaire aussi. Docteur Alignon, est-ce que vous avez encore un peu de temps pour rester avec nous, une dizaine de minutes ?
Allez-y.
Merci.
Pour les auditeurs.
Merci beaucoup. Restez à l'écoute, justement. On va peut-être revenir sur cette coopération chinoise qui a été montrée du doigt, sans le dire, par le Japon, avec Olivier. Olivier, bonjour.
Oui, bonjour madame.
Bonjour Olivier. Vous vous dites que ce soit le Japon ou les autres, il faut que l'Afrique s'occupe d'elle-même.
Oui, exactement. Quel que soit ce que l'Afrique arrête de se comporter comme une prostituée, à chaque table, toujours on les prend de façon sans vraiment qu'on les... c'est beaucoup de pays et chacun a sa spécificité. Mais tant que tout ce qui signe, toutes les aides qui seront octroyées, tant qu'il n'y a pas de rigueur budgétaire, tant qu'il n'y a pas de personnes politiques rigoureuses dans la gestion de la chose publique, ça ne va aller nulle part. Parce que les gens, ils font des dons, ils font des... On ne sait pas où ça part. Depuis 50 ans, ça dure. Donc, il y a un moment, il faut arrêter, on fait un bilan, et puis on regarde ce qui se passe, ce qui se passe pas. Toujours l'Afrique tend, mais c'est une honte, quoi. Et c'est tout le monde nous prend comme de la merde et tout. Et bah, franchement, c'est pas les gens qui nous dirigent.
Personne n'a obligé ces pays de se rendre à Yokohama. Hein. Personne n'a obligé les pays africains de se rendre à Yokohama. Au Japon.
Mais ça sert à rien. Ça va aboutir à rien du tout. Ça va coucher d'une souris encore. Donc voilà, le mieux, c'est de nettoyer, qu'on appelle, de changer notre façon de gérer de voir, de changer notre vision des choses. Et puis on commence à aller faire des, qu'on appelle des relations, des échanges bilatéraux. Mmh. Donc voilà, on ne peut pas commencer comme ça dans le brouhaha et puis on ne sait pas où on va. La Chine va prendre quel côté, la Turquie va prendre quel côté, la France va prendre tout. Tout le monde sait que personne n'est indépendant. Là, ils vont donner, les pays francophones donneraient des miettes au Japon et tout. Donc voilà, donc, il faut chercher d'avoir une indépendance.
Olivier, on vous entend bien, vous dites finalement, l'Afrique ne doit compter que sur ses... Les pays africains, plutôt, ne doivent compter que sur leurs propres ressources. Docteur Alignong, je reviens vers vous. Il y a plusieurs choses intéressantes dans le propos d'Olivier. Notamment, Olivier a parlé d'aide au développement. Alors, c'est pas vraiment des forums autour de l'aide. Hein, puis je vais citer Shinzo Abe, qui appelait à développer un partenariat commercial à la place, justement, de l'aide au développement. C'est bien ça?
Oui, c'est bien ça. En fait, il est clair quand même ne pas parler d'aide au développement, parce que si on regarde bien, par exemple, les transferts qui sont faits par les migrants qui sont installés à l'étranger, ces transferts sont beaucoup plus importants que l'aide au développement. Donc, je pense que aujourd'hui, ce qui est en train de se jouer, c'est des questions liées en fait aux investissements, c'est-à-dire quelle est l'enveloppe financière que le Japon va poser sur la table pour permettre aux États africains de pouvoir construire leur développement. Maintenant, et comme on l'a dit, il y a cette frilosité des dirigeants japonais qui, à mon avis, manquent en fait de stratégie africaine en tant que telle. Je pense que si on analyse bien, ils n'ont pas de politique africaine claire. Et cela se traduit un peu sur le retard qu'ils ont par rapport en fait aux autres puissances sur le continent africain. Ici au Sénégal, si je donne quelques exemples par rapport en fait à la présence japonaise, le Japon, pour mémoire, ce qu'ils ont eu à faire ici au Sénégal et que les gens se retiennent le plus, c'est que de par le passé, c'est-à-dire à partir de 1990-92, ils avaient fait construire un peu la nouvelle maison de la RTS et quelques dizaines de milliers de salles de classe qu'ils avaient offertes donc au ministère de l'Éducation nationale. Donc ça, véritablement, c'est ce que les gens retiennent le plus au Sénégal par rapport donc à la présence japonaise. Au-delà, ce qu'on a, c'est quelques coopérants qui travaillent sous la houlette de la JICA sur quelques projets et qui ne restent pas très longtemps sur le continent africain. Donc, pour dire que cette présence japonaise, véritablement, à mon avis, n'est pas assez significative comme elle aurait dû l'être pour permettre, par exemple, au continent africain de pouvoir bénéficier de l'avancée technologique du Japon, de pouvoir aussi bénéficier, en fait, de l'industrie japonaise en tant que telle. Quand on voit un peu sur le continent le nombre de voitures japonaises qui existent et de matériel qui sont reconnus comme étant des matériels venant du Japon, mais on ne sent pas la présence des entrepreneurs japonais qui veulent investir, qui veulent marquer de leur empreinte sur le continent africain par rapport aux autres partenaires traditionnels.
Alors justement, alors je ne sais pas si la Chine est désormais un partenaire traditionnel, hein, mais on l'a dit, hein, lors de ce sommet, le Japon a vanté une coopération raisonnée mais de qualité. C'est clairement un clin d'œil à la Chine. Je voulais avoir votre avis clairement sur cette question, docteur Ralignyang. Est-ce que selon vous, la coopération japonaise peut être plus vertueuse que celle la coopération chinoise? Est-ce que la coopération chinoise est entre guillemets dangereuse pour les pays africains, comme on entend ici et là, notamment du côté de Paris aussi?
Oui, en fait, c'est ce que certains affirment en fait, en disant que la coopération chinoise pourrait être une sorte de fardeau pour certains pays, dans la mesure où en fait l'enveloppe de la dette aujourd'hui a atteint en fait des niveaux insoupçonnés. Mais il est clair que ce sont en fait les pays africains qui sont allés emprunter cet argent-là. Je ne pense pas que les Chinois les aient forcés à prendre cet argent-là pour construire des infrastructures. Maintenant, moi, je considère toujours que si nous avons des États qui sont indépendants, qui sont autonomes, qui décident de leur propre destinée, c'est à ces États que nous devons s'en prendre aujourd'hui. S'il y a un niveau d'endettement élevé, et c'est pas, à mon avis, sur la Chine que nous devons tirer, parce que je pense qu'on n'a pas forcé à ces États-là de prendre cette enveloppe financière-là. Mais il se trouve qu'ils ont des besoins en termes d'infrastructures qu'ils ne peuvent pas satisfaire et qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, sur le marché financier, c'est seulement en fait la Chine qui est capable de pouvoir leur offrir cette alternative-là. C'est pourquoi je pense que cela s'explique par rapport en fait à ce niveau d'endettement-là. Maintenant, il y a des questions qui, à mon avis, doivent être posées sur la table. C'est concernant en fait la construction de ces sentiers-là, parce que si vous me prêtez de l'argent, je suis en droit de pouvoir donner des orientations par rapport en fait à la manière dont cet argent doit être décidé au niveau de mon pays, parce que je ne peux pas permettre, par exemple, que vous me prêtiez 3 milliards de dollars et que ces 3 milliards de dollars-là se retournent aussi en Chine, parce que ce sont des entreprises chinoises qui vont venir faire les travaux, payer leurs salariés et puis prendre le bénéfice. Je pense qu'à ce niveau, il faut aussi que les États africains puissent avoir leur mot à dire, à partir du moment où ce sont eux qui sont allés emprunter cet argent-là, qu'ils puissent aussi avoir le courage nécessaire de donner des orientations à la République populaire de Chine sur la manière à utiliser cet argent-là pour permettre à des entreprises locales de pouvoir bénéficier de cette manne financière-là, de pouvoir bénéficier d'un transfert de compétences ou de technologies qui va leur permettre demain de pouvoir se substituer à ces entreprises chinoises-là. Donc je pense qu'à ce niveau, c'est là où on doit faire des corrections par rapport donc à ce partenariat-là entre la République populaire de Chine et les pays africains. Mais la dette, elle existe, elle est normale. Moi, je pense que...
Certains la trouvent bonne, parfois. Voilà. Certains pensent que l'endettement est bon.
C'est ça. Il y a un bon endettement en économie. Les économistes, les grands économistes considèrent que l'endettement, il est bon pour l'économie parce que ça permet de faire des routes. Si on a besoin de routes, on a besoin de désenclaver certaines zones, on a besoin de construire pour permettre à ce que les produits agricoles puissent être transportés, puissent être vendus et puis livrés à temps réel. Ça, c'est à mon avis des plus-values qui vont rentrer dans l'économie. Donc, je ne peux pas considérer que c'est un mauvais endettement, mais il y a des points sur lesquels les États africains doivent revenir et dire en fait à leur partenaire principal, c'est-à-dire la République populaire de Chine, que sur l'enveloppe financière que vous nous avez accordée, nous voulons une implication forte et soutenue des entreprises locales et de la main-d'œuvre locale pour permettre à ce que cet argent-là, qu'on sente que cet argent a bénéficié aussi aux locaux.
C'est très clair. Merci, docteur Ralignac. Restez à l'écoute, il nous reste quelques minutes. On va écouter Augustin depuis Lubumbashi en République démocratique du Congo. Augustin, bonjour.
Bonjour Stéphanie, bonjour à tous les auditeurs des JDA.
Bonjour Augustin, bienvenue dans le JDA. Alors, cette coopération, j'allais dire sino-africaine, pas du tout, entre le Japon et l'Afrique, vous en pensez quoi ?
Bon, à mon avis, je pense que c'est une très bonne idée. D'ailleurs, avec les participations de tous les quelques présidents de l'Afrique qui sont partis, en particulier notre président, son Excellence, Monsieur le Président Antoine Tshisekedi, qui est parti pour voir comment on peut améliorer du point de vue infrastructure, du point de vue commerce, du point de vue développement du pays. Alors, nous avons eu quelques temps avec les Chinois qui ont eu à nous favoriser les démarches, les infrastructures, les routes et tout comme ça. Ben, moi, je pense que c'est une bonne idée pour que le Japon d'ailleurs lui-même ne peut pas quand même venir vous proposer quelque chose dans lequel il n'est pas sûr. Je pense que c'est une très bonne idée. Pour le développement de l'Afrique également, je propose aussi au président à certains présidents de la République africaine de pouvoir bien accepter cette proposition que le Japon a mis en place. Pour nous, par exemple, pour au cas d'Ebola qui vient de passer au niveau de l'Est de la République, le Japon y a proposé au moins 60 tonnes de combinaisons qui peuvent permettre aux médecins de bien évoluer au niveau de la RDS. Donc pour moi, j'espère que ça serait une bonne idée et une bonne place à mettre, sinon bonne chance vraiment à cette coopération.
Merci Augustin de nous avoir appelé hein, pour nous donner votre point de vue. Bonne journée à Lubumba. Merci Augustin, merci beaucoup. On va finir d'écouter un dernier auditeur. Amadou, bonjour.
Bonjour Stéphanie, à part. Bonjour les auditeurs de Radio Africa. Moi je pense que c'est une bonne c'est une bonne affaire entre le Japon et l'Afrique. Si toutefois que à condition, c'est une question d'intérêt économique parce que la mondialisation, tout cela, l'Afrique ne peut pas se fermer sur lui-même. Mais ce qu'il y a, on a expérimenté déjà le passé, l'Afrique avait la matière première, ben, on a été colonisé, c'est toujours les autres qui décident à notre place. Donc il faut qu'ils prennent leur destin à leur main, il ne faut pas qu'à obéir seulement parce qu'ils ont besoin de nous. Ben, c'est à nous aussi, comment dire, dans l'économie mondiale. D'ailleurs, moi, j'espère bien que l'Afrique aura son franc un jour et qu'il va garantir son propre franc, qu'il va rentrer
Augustin, il y a au moins 40 pays, Amadou, je vous rassure, Amadou, il y a au moins 40 pays africains qui ont leur propre monnaie. Hein.
Bon, un peu oui, moins. Oui, il y a certains, mais je parle de France CFA, nous, en tant que France CFA, le Sénégal, tout cela, comment ça s'est fait jusqu'à présent, on garantit notre franc, le jour qu'il ne peut plus garantir notre franc, nous, on va être en prison. Donc, il faut prendre son destin à la main. Il ne faut pas laisser s'obéir tout simplement parce que les autres, ils ont besoin de nous. Il faut prendre ses décisions. La vie, c'est ton choix, c'est à toi-même de guider ton destin. Une bonne continuation à vous, c'est tout simplement. Ce n'est pas de leçon à donner, c'est une question de logique.
Merci Amadou, bonne journée. Vous êtes du côté de Grenoble, c'est en France, c'est dans le sud de la France. Hein. Ça va être pas loin de la montagne, Grenoble. Docteur Alignan, je vous reviens pour une dernière question sous forme peut-être de conclusion. Hein. Vous avez entendu Amadou. Alors même, on a bien compris, hein, docteur Alignan, que pour financer ces infrastructures qui coûte cher, hein, notamment on parlait de routes, tout ça. Les pays africains ont besoin de sommes importantes. Mais cela dit, hein, il reste quand même le sentiment que ce sont des grandes puissances, hein, qui se partagent le gâteau Afrique. Comment on fait pour sortir de ce schéma aussi, où finalement l'aide se tourne l'Afrique se tourne toujours vers l'extérieur pour financer son économie?
Oui, en fait, c'est clair qu'à partir du moment où l'Afrique il va en rang dispersé à chaque fois dans ces grandes conférences-là où chacun cherche à négocier pour soi, on aura toujours le même schéma. Il est clair que si, en fait, les dirigeants africains ne pouvaient pas réfléchir ensemble sur un cahier des charges commun qui pourrait leur permettre de voir les voies, des moyens de trouver des modes de financement pour les économies africaines, je pense qu'on aura toujours ces genres de manifestations-là. Ce qui est fondamental ici, c'est qu'il y a une absence réelle, en fait, de stratégie et de prospective des dirigeants africains qui ne s'asseyent pas pour discuter ensemble et réfléchir ensemble sur les voies et moyens pour apporter des solutions aux problèmes africains et qui, en quelque sorte, sont dans une sorte de babysitting de leur économie qui donne ça aux autres pour pouvoir, en fait, le gérer à leur propre bénéfice. Donc, c'est ça, en fait, le problème fondamental des économies africaines. Il faut que les dirigeants sachent que c'est pas seulement une question de financement externe, c'est aussi une question de système à revoir, à réorganiser, sur lequel, en fait, il faut discuter pour trouver des voies et moyens pour qu'ensemble, qu'ils puissent trouver comment, aujourd'hui, ils peuvent aller dans le sens de s'autofinancer et ne pas continuer donc à tendre la main aux autres pour pouvoir construire leur développement. Donc, je pense que les grands auteurs en ont parlé, que ce soit Joseph Kizerbo ou d'autres auteurs africains, le développement, c'est le développement de soi. Ce ne sont pas les autres qui vont venir développer le continent africain. Malheureusement, les dirigeants, à mon avis, ne sont pas conscients de cela et ils préfèrent déléguer, en fait, la gestion de nos économies aux autres et pensent que c'est à ce niveau que la solution viendra. Moi, je pense que tant qu'on ne s'assiera pas ensemble pour discuter des grands mots du continent africain et de trouver les manières de résoudre, en fait, les questions du continent africain.
Merci.
Les grands sommets vont se renouveler et on aura encore, dans 3 ou 4 ans, 5 ans, à revenir.
D'émission, j'imagine, docteur Alignan. Excusez-moi, docteur Alignan, je voulais vous interrompre, on arrive à la fin de cette émission. Merci d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes spécialiste des relations sino-africaines. On se retrouve demain pour une nouvelle édition.
Africa. Le JDA, c'est sur Africa Radio.